Donc on peut prendre le temps de s'installer, ramener notre attention dans notre corps, être là où est le corps, comme dit Thich Nhat Hanh. Chaque mouvement est connu. Et puis peu à peu, les mouvements ralentissent. Et on ajuste de plus en plus finement la posture. On prend soin de la colonne. Puis on peut détendre le visage d'abord, lâcher autour des yeux, les mâchoires. Lâcher les épaules. Laissez libre le mouvement de la respiration. On peut prendre une ferme intention de s'engager dans cette méditation, réveiller le désir d'être, d'aller en profondeur, ou appeler à nous les profondeurs. On peut ancrer notre attention dans la sensation physique de la respiration ou s'ancrer dans le moment présent de quelque manière qui vous plaise, qui fonctionne pour vous. En étant simplement attentif de ne pas se laisser embarquer dans des longues histoires construites. Et que l'on remarque qu'une histoire a happé notre attention. On peut laisser naître un sourire sur nos lèvres. C'est bon de le remarquer. Et on lâche l'histoire. On revient à la sensation d'être présent. À travers la perception de quelque chose qui se passe dans le moment. Et on reste dans cette sensation d'être présent, non distrait. Où on y revient, à chaque fois que c'est nécessaire, à chaque fois qu'on remarque qu'on était parti. On revient à la perception de quelque chose qui se passe dans le moment. C'est notre ancrage, les sons, les sensations physiques, la respiration. On revient à notre ancrage. On reste avec notre ancrage et on se sent présent. Maintenant, on peut prendre un temps pour clarifier un peu nos intentions profondes, nos aspirations. C'est un temps entre réfléchir et ressentir. Qu'est-ce qui est vraiment important pour moi? Qu'est-ce qui m'appelle? Quels sont mes désirs profonds? Ceux que j'aimerais suivre? Quelles sont les qualités que j'aimerais voir s'installer en moi? Faire émerger en nous ce qui compte vraiment, sans se demander comment on va faire. Simplement pour ramener de la clarté sur ce qui compte. Quand on trouve quelque chose qui a du sens, qui nous appelle, qu'on désire profondément, alors on peut se souhaiter que cela prenne place dans notre vie, sans se demander comment on va faire, sans stratégie, juste se souhaiter. Souhaiter toujours plus de bienveillance, ou se souhaiter toujours plus de patience. Souhaiter d'être capable de prendre du temps, de se dédier à ce qui compte. On peut prendre du temps pour ça. Quelles sont les plus belles manières d'être? Comment est-ce que je me vois? Comment est-ce que je m'envisage? On peut essayer de voir et de ressentir comment ce serait si on avait cette patience, par exemple, ou comment ce serait si on avait ce courage ou cette discipline. Se voir et se ressentir. Faire l'expérience déjà de cette qualité. Comment ce serait si on était vraiment attentionné à nous-mêmes? Vraiment attentionné aux autres. On peut le ressentir, ça. Si vous pouviez vous façonner, comment voudriez-vous être? Quand il vous semble avoir fait le tour des qualités profondes que vous voudriez incarner, vous pouvez revenir à cette sensation de présence. Si ça reste vivant, s'il reste des endroits que vous avez touchés où vraiment vous sentez que vous le vivez au moment où vous le souhaitez, vous ressentez en fait cette qualité, vous en ressentez la beauté, alors ça vaut la peine de passer encore du temps à cet endroit-là. De vous ressentir être avec cette qualité. De raviver le désir pour cette qualité. Parfois, on peut utiliser l'inspiration pour redresser la colonne, remettre le corps droit. L'expiration, tout détendre. Retourner à la sensation de présence. Et rester là. Ou faire émerger les qualités profondes qu'on veut rendre plus évidentes en nous. Qu'elles soient des directions plus stables et plus présentes dans notre quotidien. Qu'elles soient plus claires à notre esprit. Si l'on se sent envahi de pensées et d'histoires construites, on ne laisse pas s'installer une sensation d'échec. On peut toujours quitter la pensée, ne serait-ce que pour un petit moment, et s'offrir un instant de présence. Une, deux ou trois respirations déjà. Présent, non distrait. À l'intérieur d'une longue méditation, on peut en faire plein qui sont courtes. Et y revenir encore et encore, s'offrir des moments, même si on est pris dans des histoires qu'on ne peut pas contrôler, qui nous aspire. Faire des pauses. On a un temps maintenant pour des retours sur cette méditation. C'est toujours intéressant d'entendre ce qui s'est passé dans la méditation de quelqu'un d'autre. Parfois, ça nous éclaire, nous, sur certaines choses qui se passent et qu'on n'avait pas vues. Ou parfois, ça nous fait voir combien c'est différent aussi d'une méditation à l'autre ou pour une autre personne. Mais c'est toujours intéressant. Et pour soi-même, c'est intéressant de pouvoir formuler parfois. Ça aide même à éclaircir, à voir plus clairement ce qui s'est passé. Ça peut aussi être un moment pour des questions par rapport à la méditation en général, par rapport au discours, à votre pratique. Il n'y a pas de réponse, mais il y a quand même des choses à garder à l'œil, je pense. Par exemple, d'abord, je pense que il faut faire attention, il faut tous qu'on fasse attention à garder de l'énergie pour être positif avec notre entourage. Ça, c'est un point d'attention, je pense, et de vigilance qu'on doit tous avoir. C'est de savoir, par exemple, jusqu'où se tenir au courant de l'état du monde. Jusqu'où est-ce qu'on est capable, en fait, d'embrasser l'état du monde sans soi-même couler et devenir et générer une forme de négativité qui sera mauvaise pour nous-mêmes et pour notre entourage. Là, il y a quelque chose où on doit garder, on doit avoir un regard, en fait, sur jusqu'où est-ce qu'on est capable et jusqu'où est-ce qu'on peut aller. Et il peut y avoir des moments où on voit que on est en dessous de, on est au-delà de nos limites. Et à ce moment-là, il vaut mieux prendre de la distance avec les informations, avec les pensées, le quotidien intérieur qu'elles génèrent, ce qu'elles génèrent en nous. Il vaut mieux prendre de la distance et se laisser de la capacité de rester dans une énergie positive et bienveillante vis-à-vis de nous-mêmes et des autres, et dans un état de confiance, parce que tout le monde en a besoin. Donc là, il y a un point d'attention à avoir. Aussi, je pense que la colère, elle est nécessaire. Parfois, elle a un statut un peu particulier, la colère, dans la spiritualité bouddhiste. Mais la colère est vraiment nécessaire. Donc, je pense que elle peut avoir sa place. Et puis après, il y a la haine, ça c'est problématique. Et là, il faut voir la distinction entre les deux. Et quand ça devient souvent la haine, une différence, c'est que la haine, elle va être obsessive. Ça va être tout le temps là. Et là, il faut faire aussi de nouveau, je pense, il faut faire attention à ne pas se laisser prendre par la haine. Parce que ça va rien aider ni personne. Et le sentiment d'impuissance qui va avec. Et donc, il n'y a pas une réponse, mais je pense qu'il y a des, il faut être attentif au processus et à ce que ça nous fait vivre. D'accord. Ok. Oui. Et la colère, elle peut tout à fait avoir sa place et peut-être m'amener des actions justes. Lesquelles? Ça, c'est dans un contexte comme ça, c'est toute une autre question. Mais il y en a. Il y en a à notre échelle, il y en a.
Alors, première le mental est arrivé, il galope. Et je me parle de trois fois, c'est comme si c'est un quotidien que je n'attendais pas. Et que là, le fait d'être trouvé, je me dis que c'est mieux. Je me dis que je ne le fais pas. Après, j'ai une très bonne idée, donc je vais avoir une idée.
De te lever et de...
D'écrire mes idées, parce qu'après, il était un petit et il avait des bonnes idées.
Ouais.
Mais ça n'a pas contraste comme si dans le quotidien, je n'avais pas mon attention là. Et là, le fait d'être actif, je l'ai. Ça
Et
m'a
du...
surpris.
Ouais. Et du coup, la question, c'est est-ce que dans le quotidien, il y a autant de pensées que ça et tu ne le vois pas? Ou est-ce que c'est parce que, vu qu'il y avait de l'espace, il y a, vu que l'attention n'était pas engagée dans d'autres choses, en fait, par défaut, il y a des histoires qui viennent. Tu vois ce que je veux dire? Parce que parfois, c'est ça aussi. C'est quand notre attention est complètement engagée sur quelque chose, il y a moins de pensées. Hein, quand on est, quand on crée, par exemple, surtout dans les processus créatifs, quand on fait ce qu'on aime en général, il y a très très peu de pensées. Mais si notre attention est disponible, à ce moment-là, il peut y avoir tout un tas d'histoires qui remontent, ou bien même, ou alors ça peut être parce qu'il peut y avoir un certain ennui, il peut y avoir des films qui se créent et qui génèrent des émotions, et du coup on vit plein de trucs, et du coup c'est super, ça fait de l'action, de l'activité, il y a quelque chose de qui veut ça. Hein. Ben, il y a tous ces processus-là à observer.
Si je le relis à un état que j'ai décrit après, pendant le cours, moi j'ai plutôt l'impression d'être souvent dans ce qui n'est pas dans les deux. Je me dis, comment je vais arriver comme ça?
Tu as vu quoi arriver?
Le mental, le discours,
Le mental, le discours, ouais. Oui,
la parole,
oui.
le
Oui,
trouver l'autre,
oui. Oui. Ouais. Et
qui
peut-être que tu peux
prend l'espace.
peut-être que tu peux qui prend l'espace, mais qui ne prend peut-être pas tout l'espace. Peut-être pas tout l'espace. Parce que à partir du moment où on est déjà au moment où on est conscient qu'il y a beaucoup de pensées, c'est différent de quand on est complètement absorbé dans toutes nos pensées. Il y a déjà un pas en retrait et du coup une perspective, un peu plus de distance et de l'espace autour. Déjà, c'est différent. Déjà, c'est différent. Ouais. Ouais, avec plaisir. Ouais. Ouais. Il va y avoir des moments en méditation où il y a plein de pensées et ça reste super posé, calme et les pensées, elles sont là. Et elles font leurs choses, mais elles ne dérangent pas spécialement. Elles sont à ce moment-là, la différence, le ressenti, c'est on ne va plus avoir l'impression qu'on est en train de penser, mais on va avoir l'impression qu'il y a des pensées. C'est ça la différence. C'est parce qu'il y a de l'espace autour et on n'a pas l'impression que nous, on est le penseur. C'est juste, il y a des pensées, comme il y a des sons et des sensations physiques et tout ça. À ce moment-là, ben, la pensée, elle ne dérange pas plus que des sons ou des sensations physiques. Mais dès qu'on est absorbé dedans, il n'y a plus cet espace, on n'a plus la conscience qu'on est en train de penser ou qu'il y a des pensées. Hein, on est à un autre endroit en fait. Et ce mouvement-là, on le fait tout le temps en méditation. Et c'est intéressant de le remarquer. Merci. Alors.
par rapport à mon temps, mon cinéma, donc à un moment donné, le corps ne reste pas. En fait, parce que l'intérêt de celui
Avec plaisir. Avec plaisir. Et ça met en lumière, je trouve, l'importance de la philosophie dans la pratique spirituelle, pas que de la méditation. Parce que, en fait, à la manière dont on va approcher, c'est-à-dire avec la conception et les idées qu'on va amener dans notre méditation, on va vivre une méditation très différente suivant, en fait, les idées, les concepts et les manières de voir qu'on va amener dans notre méditation. Et c'est pour ça que la philosophie, je sais plus qui disait, la philosophie n'est rien sans la méditation et la méditation n'est rien sans la philosophie, en fait. Merci. Encore place pour une ou deux questions. Oui.
C'est très intéressant le fait d'amener dans une méditation le questionnement. C'est le fait que je pratique le traité. Et quand on le revient à la pratique, on se dit finalement, en fait, ce qui vient, est-ce que ça va être des méthodes très productives? Parce que dans le cadre de la méditation, c'est un lien avec les discours sur justement ce qui est important pour nous, quelles sont nos aspirations profondes. Parce que quand on réfléchit à ces aspirations, finalement, on tombe sur des mots, et bienveillance, patience, et dans le quotidien, pas forcément concret. C'est-à-dire, comment on va faire le bien de ce quotidien? Ma question de temps de mandat, c'est que, est-ce que dans le bouddhisme, finalement, il existe un chemin pour arriver à discerner ces aspirations profondes, ces aspirations profondes qui ne sont pas avec mon moi construit, mais juste à. Ça, c'est du profond, un peu. Des aspirations profondes avec ce qui est important pour moi avec mon moi construit, finalement, j'ai le sentiment que je l'ai connu. Des aspirations profondes avec ce moi que je porte, finalement, comment je peux le discerner? Comment je peux le faire apparaître?
Ouais. Et ça fait partie un peu de la deuxième partie du discours, mais déjà, là par exemple, de nouveau l'importance de la philosophie, parce que la réflexion sur les chemins qui mènent au bonheur et les chemins qui mènent à la satisfaction, à la souffrance, à dukkha, ça fait partie vraiment dans le bouddhisme, c'est la base. Et ces réflexions-là nous amènent à connaître le moi construit et voir si quelque chose existe en dehors du moi construit et voir les limites du moi construit, la place du moi construit et ce qui existe en dehors. Et c'est cette compréhension qui peu à peu nous fait voir, ah oui, donc en fait on peut aspirer, il y a ça et ça et ça qui peut nous amener à une autre manière de vivre, à une autre manière d'être, à une autre manière de s'interpréter qui génère moins de tension. Et ça, c'est toute la partie de la compréhension. C'est pour ça que la partie philosophique en fait de la spiritualité est très importante. Je me rappelle d'un discours du Dalai Lama. C'est pas quand on était en Inde, t'étais pas avec moi cette fois-là où on avait été voir le Dalai Lama. Tu te rappelles? Il disait, il était avec des moines. Il venait d'où? Coréen, avec des moines coréens, et il assistait énormément sur l'étude. Je sais pas si tu te rappelles de ça. Il leur disait, la méditation, c'est pas suffisant, la prière, c'est pas suffisant, parce qu'il y a beaucoup de rituels. Les rituels, c'est pas suffisant. Il y a l'étude. N'oubliez pas l'étude, parce que l'étude va nous faire voir les possibilités qui ont déjà été identifiées dans ce cas-ci, le bouddhisme, mais ça pourrait être l'étude de n'importe quelle tradition, va nous faire voir les possibilités humaine et de manière d'être et d'ouverture et d'autres manières d'être qu'on n'aurait pas du tout envisagées, et de là vont venir les aspirations. Ah oui, en fait on pourrait être ça. En fait, on n'est peut-être pas que ça. Hein, nous, les yeux sur notre moi construit, on a l'impression que c'est la totalité de notre existence et de ce qu'on est. Mais à un moment, l'étude nous amène à envisager plus large, à s'envisager plus large, plus vaste et plus interconnecté et plus et à nous faire comprendre à ce qu'on s'ouvre à la possibilité d'une profondeur extraordinaire qui fait partie de notre existence, mais qui est non repérée. Parce que ce moi construit prend tellement tout le temps de place et tout, et puis on a tellement de choses à faire déjà tous les jours que on n'a pas ce sens peut-être de quelque chose d'extrêmement vaste et silencieux en nous, quoi, qui n'est pas facilement repérable. Et l'étude nous amène par l'identification de ce qu'est le moi construit à pressentir qu'il y a peut-être beaucoup plus en fait. Et de là peuvent venir les aspirations, je pense. Mais voilà, ça va venir aussi dans le discours de tout à l'heure. Ouais. Mais alors, je pense, essayer d'écouter les aspirations quand elles ne sont pas en mots, mais la capacité de les formuler va aider. Va aider, en fait, à ce qu'on s'en rappelle, déjà. Et ça peut venir dans l'autre sens. Voilà. Mais, la formulation, à un moment, va être important. Comme pour les enfants à l'école, qu'on incite à formuler leurs émotions, parce que c'est une fois qu'ils les connaissent, en fait, qu'ils vont avoir une relation beaucoup plus saine avec leurs émotions. Et nous, c'est pareil avec les aspirations. Si on connaît vraiment nos aspirations, c'est-à-dire si on est aussi capable de les identifier, eh ben, elles vont revenir plus souvent à notre esprit. Et peut-être, à certains moments, on va avoir une attitude qui sera en contradiction avec notre aspiration profonde, mais on est tellement conscient de nos aspirations profondes parce que, comme on vient de le faire, si on le fait régulièrement, on les fait remonter à notre esprit, comme on l'a fait là dans la méditation. On les a rendues évidentes, on a été les chercher, on a été les exhumer presque. Hein, parce qu'on n'est pas conscient forcément. Elles ne font pas partie de notre quotidien, on ne se les verbalise pas. Là, on leur a donné une certaine importance dans notre quotidien de la méditation. Du coup, elles prennent une place et verbaliser les aide à prendre cette place et à s'en rappeler et du coup à venir confronter une attitude qui est en contradiction avec ces aspirations qu'on cultive dans notre pratique. Voilà, et ça aussi, je vais y revenir dans le discours de tout à l'heure. Ça fait partie, quelque part, de cette... comme je disais, savoir ne suffit pas. Je reviendrai à ça tout à l'heure. Donc maintenant... Ah oui.
Pour moi, c'était très juste que tu proposes approcher de mon aspiration profonde, et tu as bien insisté sur le fait de ne chercher pas comment. C'était très simplement que je viens de le faire, parce que sinon c'était la phase d'après automatiquement. Et du coup, c'est venu porter ce mouvement de pensée, et ça a ouvert vers le passé.
Oui, rester en contact avec l'aspiration sans chercher comment. Et aussi sans laisser s'immiscer des pensées qui viennent en général de ce qu'on appelle la critique intérieure, qui vont nous quelque part nous faire sentir que c'est pas vraiment possible pour nous, ou qu'on ne le mérite pas, ou ce genre de choses, et qui parfois arrivent quand on a ces aspirations profondes, quelque chose qui vient les bloquer par manque de confiance en soi, ou pour des raisons de critique intérieure et de manque de confiance en soi, et de ne pas laisser ça s'immiscer. En fait, on a le droit de souhaiter, de sentir et de souhaiter, et de rester en contact avec cette aspiration, justement sans se demander comment, et aussi sans laisser s'introduire ces pensées qui bloquent. On va reprendre juste une petite minute de silence pour de nouveau bien s'imprégner de cette sensation d'être présent, de tranquillité.